On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Luc Schuiten est un architecte bruxellois, formé à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Considéré comme un architecte visionnaire, il estime que nous avons peut-être trop vite oublié que nous sommes avant tout des êtres biologiques installés sur une planète elle-même vivante. À quoi ressemblera notre futur ? En réponse à cette réflexion, il imagine de nouveaux lieux de vie, conçus à partir de l'observation des vastes écosystèmes tels que les massifs coralliens et les forêts primaires. Je l'ai rencontré sur la forêt Ecobio d'Alsace, où il est venu présenter son exposition La Cité Végétale. Luc, que voulez-vous transmettre à travers cette expo ?
Je cherche à dessiner le monde dans lequel j'aimerais bien vivre, parce qu'en fait, le monde que je dessine, je vis dedans, parce que je suis beaucoup plus souvent dans ce monde-là que dans le monde actuel et réel, puisque le dessin, pour moi, est une manière d'exprimer ce vers quoi je tends. Et j'ai trouvé que c'était bien plus riche de montrer le monde dans lequel on pourrait vivre que de critiquer ou montrer son insatisfaction du monde dans lequel nous sommes. En voyant ce qui pourrait être, en regardant cela, c'est déjà une manière de voir à quel point on est loin de trouver un équilibre qui est celui qui nous permettrait d'évoluer, de trouver une place épanouissante pour nous. Donc, c'est assez... C'est pour moi motivant de dire que les solutions existent, elles sont autour de nous. Il faut peut-être ouvrir les yeux. La nature nous offre tellement d'exemples de choses qui sont magnifiques et qui ont été réalisées avec toujours de manière durable, avec tellement de savoir-faire, que tourner le dos à tout cela pour créé par nos usines, notre monde industriel, des biens de consommation qui ne nous apportent pas grand-chose et qui vont vite encombrer nos poubelles et devenir des déchets auxquels on a beaucoup de mal à se débarrasser. Ce sont des manières de vivre qui sont tellement loin de ce que nous attendons réellement. Il y a beaucoup de poudre aux yeux dans le monde actuel. Et si ce n'était qu'une apparence, ce ne serait pas si grave, mais on en paye énormément les conséquences. Et il y a tous les retours de situation et les effets induits par cela qui sont considérables.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que la nature, on s'y intéresse quand elle est lucrative, quand on peut en tirer, générer un profit. Là, l'homme va s'intéresser vraiment à la nature, mais la préserver, on se rend compte aujourd'hui que ça ne rapporte pas grand-chose. Donc vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un architecte végétaliste, c'est ça ?
Je suis architecte en tout cas, et je cherche à exprimer ce que je ressens du monde dans lequel je vis par mes dessins surtout. Parce que le dessin est une manière fulgurante de rentrer dans un univers. C'est une manière d'ouvrir une porte vers ce que j'appelle un autre possible. On a choisi un possible, on aurait pu en prendre un autre. En développant la civilisation industrielle, on a développé quelque chose qui privilégie la suprématie d'une partie des individus sur une autre. Les inégalités sociales, matérielles, etc. Le pillage de la planète. Bien sûr, il y a aussi des biens et des apports extraordinaires qui sont qu'il ne faut pas rejeter. Au niveau de la médecine, etc., avoir une machine qui fait un scanner du cerveau et qui permet de déterminer où se trouvent les problèmes, ça fait partie de ces avancées considérables que je suis loin de rejeter. Mais tout à l'industrie n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Nous avons, par exemple, en architecture, développé un principe de mondialisation. C'est pour moi absolument regrettable. On a réduit le concept de l'architecture à des petites boîtes qui sont des objets de design international, les mêmes, partout sur la planète. Alors que les conditions climatiques, les cultures, les biens propres à ces lieux sont chaque fois spécifiques. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Chaque architecture, chaque lieu avait une architecture qui était induite par son terroir, par son sol, son sous-sol, son climat, sa culture, les gens qui y habitent. Et cette spécificité leur donnait quelque chose qui leur était propre. C'était très intéressant de voyager pour voir tout ce qu'on a fait partout dans le monde au niveau de la créativité en utilisant les ressources locales. Maintenant, ce sont les mêmes boîtes partout dans le monde et elles sont d'une banalité affligeante. On a tout réduit à un même commun dénominateur qui est normatif et tellement limité. Cette perte de la biodiversité en architecture est pour moi aussi grave que la perte de la biodiversité dans la nature. Ce sont des valeurs que l'on ne peut plus, qu'on ne retrouvera plus. En architecture, on pourrait un jour repartir vers quelque chose d'un peu plus sensible, d'un peu plus représentatif du lieu dans lequel il s'implante. Mais ce n'est pas du tout dans nos mentalités. C'est à ce point curieux de voir à quel point les valeurs principales de ce monde ont été abandonnées au profit de l'heure, d'images fragiles et attractives peut-être pour certains, mais comme vous dites, lucratives. C'est-à-dire que si c'est les mêmes choses qui sont produites partout, une seule machine peut les faire et on habite dans ces petites boîtes tellement peu adaptées. Je travaille pour le moment sur une exposition à Sao Paulo. Sao Paulo, c'est une ville qui s'est implantée à l'endroit où se trouvait la forêt atlantique. Cette forêt tellement riche en biodiversité, il n'en reste plus que 5%. Ça a été remplacé par une forêt de béton et de verre qui, avec les hautes températures et le soleil, surchauffe, donc est climatisé. Quand on climatise, on refroidit l'intérieur, mais on chauffe l'extérieur. Donc la température dans la ville augmente, donc on utilise de plus en plus les conditionnements d'air, on est dans le cercle vicieux. Juste à côté, dans la forêt atlantique, il fait 5 à 10 degrés de moins que dans la ville. Et il ne faut pas climatiser, la température est très bonne dans ce qui reste de forêt. On a bousillé le système, et tout ce qui existait, pour mettre à la place quelque chose qui ne fait qu'accentuer le problème. On peut imaginer qu'on pourrait un jour, si on devient plus malin, faire revenir dans ces villes la forêt atlantique, par exemple, recréer une canopée au-dessus qui va empêcher la surchauffe, qui va ombrager, etc., qui va ramener la vie, qui va permettre aux citadins de vivre en phase avec cet environnement. Je travaille aussi sur les favelas, où je fais des hypothèses, où ces murs très bruts, faits dans des conditions relativement pauvres, pourraient être maintenant couverts par des potagers verticaux ou horizontaux qui permettraient d'assurer une partie de l'alimentation de la ville. Nous sommes dans une dépendance énorme au niveau alimentaire. La plupart des aliments que l'on mange ont fait la moitié du tour de la planète ou plus avant de venir dans notre assiette. Est-ce que c'est tout à fait raisonnable d'utiliser ainsi les dernières réserves pétrolifères que nous avons ?
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot, c'est vrai la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Moi, ce qui m'effraie, c'est la rapidité dont les sociétés se transforment, la rapidité dont cette uniformisation est en train de s'épandre sur l'ensemble de la planète. Vous parliez qu'avant, en voyageant, on voyait différents types d'habitats, différents types de traditions, de cultures, de diversité. C'est un mot très présent, la biodiversité. Et là, en l'espace d'une ou deux générations, on voit des transformations qui s'opèrent. Et vous, dans vos différents voyages, est-ce que vous avez vu des différences entre il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, par rapport à cette masse de béton coulé ?
Bien sûr, puisque l'ancien, ce qui faisait partie de cette biodiversité, disparaît tous les jours pour être remplacé par ces nouvelles boîtes. Et ces nouvelles boîtes sont faites énormément de béton, de verre et d'acier. On sait quelle est l'empreinte écologique que la fabrication de ces matériaux nécessite. Et c'est là que l'on voit à quel point toutes les solutions qui sont privilégiées actuellement sont des solutions qui sont aberrantes au niveau de l'équilibre planétaire. Ouvrons simplement les yeux, regardons ce que fait la nature. On regarde un coquillage. Un coquillage, c'est un biobéton qui est magnifique. On n'a jamais réussi à faire un béton aussi beau que la coque d'un coquillage. Mais ça, c'est sans usine, sans haute température, sans haute pression, sans essence, etc. C'est fait avec le corps d'un petit mollusque dans l'eau, simplement, sans déranger personne. Et en utilisant le CO2 en tant que matériau de construction pour faire ce biobéton. C'est magnifique. Il y a là quelque chose qui est à notre portée et dont on pourrait commencer à réfléchir. Comment peut-on avoir, nous aussi, autant de délicatesse, de savoir-faire et de qualité ? Parce que ce béton est lisse, il est complètement imperméable et il est bien plus résistant que nos bétons. Pourquoi avons-nous besoin d'une telle technologie, de tels déchets, pollution, etc. pour faire un sous-matériau ? Il y a des solutions autour de nous. Commençons à regarder, à apprendre dans la nature comment faire pour avoir autant de beauté.
Donc moi, je vois en fait en vous deux choses. Le rêveur, l'idéaliste, qui imagine la cité de demain, la cité végétale de demain, mais en même temps qui trouve des moyens pour le rendre possible.
C'est là que je cale sur le mot rêveur. Je n'aime pas le mot rêveur. Parce que quand on rêve, on se réveille à un certain moment et on voit que la réalité est toute différente. Moi, j'essaye plutôt de projeter à ce que j'appelle un autre possible. Donc quelque chose qui pourrait être existant. Je ne suis pas dans l'évanescent, je ne suis pas dans la construction de quelque chose qui est intangible, mais dans la réflexion de quelque chose qui est aussi réaliste que de faire une fusée qui va dans la Lune en 1960. Quand on a décidé de faire ça, on n'avait ni les moyens, on ne savait pas comment faire, c'était un projet complètement utopique. Mais voilà, on s'est donné les moyens de le faire, on a mis les intelligences ensemble pour pouvoir le faire, et on l'a réalisé, parce que c'était il y avait une vraie volonté d'aller dans ce sens-là. Faire un biobéton comme le fait un crustacé, ou un coquillage, un mollusque, ça c'est pas au programme. Il n'y a pas une équipe constituée de chercheurs qui ont décidé de mettre des moyens importants en place pour pouvoir faire ça. L'araignée fait un fil qui est trois fois plus solide que nos aciers à section égale. Et ça, elle le fait sans usine, sans haute température, sans haute pression, etc. Elle n'a pas besoin d'essence pour faire ça. Elle prend ça simplement dans son environnement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Trois fois plus solide que nos aciers les plus résistants. Et c'est remarquable.
Quand vous parlez de la nature, quand vous parlez des animaux qui ont ces compétences de bâtir, de construire avec des matériaux sains, simples et écologiques, on retrouve ça finalement dans les peuples, j'ai envie de dire, premiers, ou dans voyage. On retrouve dans les campagnes sud-est asiatiques des maisons en bambou, matériaux biodégradables, solides, flexibles, étanches, et tout est très fonctionnel. On retrouve en Afrique les maisons en terre. On retrouve... on était dans cette dynamique-là d'utiliser son environnement proche pour réaliser un bâtiment sain, économique et écologique. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il y a 200 ans, on a découvert la civilisation industrielle. On a découvert qu'avec l'essence, le bois, le charbon, la vapeur, l'énergie nucléaire, on pouvait avoir une puissance considérable. Et cette mode de production est née avant tout sur des efforts de guerre. C'est là qu'on a découvert tout ce que l'on pouvait produire. Et il y a une sorte de surenchère, de course à l'enrichissement personnel et à chercher à avoir sa suprématie sur les nations d'à côté, mais les individus d'à côté aussi. Et créer une sorte de monde qui fonctionne de manière pyramidale, où chacun cherche à avoir le plus de puissance possible. Et là, la civilisation industrielle répond absolument excessivement bien à ce type de problématique. Et c'est ce qu'on a développé. On a aussi pu créer des outils absolument remarquables, comme le micro que vous me tendez là, par exemple. Il n'y a pas eu que ça, mais c'est avant tout ça le moteur qui a permis de faire ça. Il y avait d'autres voies qui était possible. On a privilégié celle qui est la voie qui a des répercussions d'ordre stratégie militaire. Mais c'est l'histoire de notre humanité. L'homme s'est avant tout caractérisé par cela. Et c'était les sociétés qui étaient les plus militarisées qui ont eu le dessus sur les autres. Ce n'est pas celle qui était... transporter la culture ou l'esprit ou la philosophie la plus évoluée qui a été la dominante. Elle a été très vite dominée par les plus sauvages, les plus... quand on voit ce qui s'est passé, prenons par exemple les États-Unis, les Indiens et les cow-boys, la culture, le raffinement, la sensibilité étaient du côté des Indiens. Les cow-boys étaient les plus sauvages, les plus sans foi ni loi. Et c'est eux qui ont eu de loin le dessus, évidemment. C'est un peu l'apanage de notre monde. Et jusque quand cela va-t-il durer? Peut-être que notre grande chance, c'est de savoir que la civilisation que nous avons mise sur place ne peut en aucun cas perdurer. Elle va nécessairement s'effondrer parce que elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas les matières premières, elle n'a pas la place pour pouvoir perdurer et répondre à cette espèce d'énorme illusion de croissance infinie. Donc il faudra mettre autre chose à la place. Et cette autre chose, il est vraiment temps maintenant de commencer à y réfléchir.
Y'en a qui courent après le pognon. Nous on en fait des chansons, c'est la balade du roi des cons. C'est la faillite chez les vendeurs de rêves. Alors on chante et on milite, il faut bien que le soleil se lève. Une petite lueur d'espoir, même si la révolution pour beaucoup d'entre nous c'est juste gagner à l'euro million. Quitte à se brûler les ailes, on allume des feux de poubelle. Trouve les mots pour le dire, on veut le meilleur, on a le pire.
Y'a plus d'aristocrates à pendre à la lanterne, mais des parties de technocrates qui trinquent à notre santé au sauterne. Le cœur de l'homme en friche, un beau sourire à l'affiche. Je fais semblant d'être heureux, mais de toute façon le bourgeois s'en fiche. Victime du hasard dans notre armée en déroute. On cherche les yeux hagards, une raison à tous nos doutes. C'est la chute finale, on dort, on mourit demain. Le capitalisme sera le genre humain.
Alors ce qui est super dans des événements comme celui-là, comme la foire Ecobio, c'est que des gens commencent à y réfléchir, commencent à amorcer le changement, parce qu'ils conscient, peut-être par conscience. J'aime beaucoup Colin Serrault qui est présente aussi sur ce festival, qui a fait son film qui aujourd'hui est accueilli par le grand public, La Belle Verte, où on voit un regard extérieur finalement. Hein, c'est un peu comme nous, petit à petit, on est endormi parce que ce qui se passe autour de nous. Mais si on nous secoue d'un coup brutal, on a cette capacité à se rendre compte que, ben oui, peut-être que l'évolution suit un chemin mauvais pour l'homme et pour la Terre, avant tout pour la planète à laquelle on est intimement lié. Et aujourd'hui, des choses germent, des idées germent, des potentiels humains sont là, sont présents pour être dans l'action. Et vous faites partie de ces gens-là en recréant, en réimaginant la façon de vivre en harmonie avec l'environnement. Donc j'aimerais, pour l'auditeur qui nous écoute, qui n'a que l'oreille et ne pas le visuel, donc qui n'a pas pouvoir voir ce que nous, on peut voir ici sur l'exposition de Luc Schuiten à la foire, mais j'aimerais que vous nous fassiez, nous créiez une dimension visuelle de ce que vous aimeriez voir dans une ville dans les prochaines années.
C'est le travail que j'ai fait dans l'exposition, c'est dessiner ce que le monde pourrait être dans 100 ans si nous prenons au bon moment les bonnes décisions. Je pense que les auditeurs peuvent éventuellement aller voir sur mon site www.vegetalcity.be.net. Cité Végétale ou simplement mon nom, Luc Schuiten, ils y arrivent directement.
C'est intéressant d'aller voir sur internet effectivement pour visualiser, mais là j'ai la phrase d'un enfant qui me disait: moi je préfère la radio parce que les images sont plus belles. Donc on va pas tout de suite aller sur internet, on va d'abord l'imaginer, laisser travailler notre imaginaire.
Très bien, effectivement, c'est une excellente suggestion. Donc je dessine le monde non pas tel qu'il est, mais tel que j'aimerais bien qu'il soit. C'est-à-dire que le vivant fait partie intégrante de la manière dont les villes pourraient se développer. On pourrait avoir dans les habitations qui sont les moins intéressantes, celles qui sont les plus banalisées, on pourrait leur mettre une nouvelle peau à l'extérieur. Et cette peau pourrait être faite d'une membrane de tissu comme on peut en trouver dans la nature, comme l'aile d'une libellule ou un cocon d'un insecte, quelque chose comme ça, qui serait fixé et sous-tendu par des branches d'arbres, par une liane, par une fougère, qui ferait la structure qui va mettre cela en place. Les toitures l'ensemble de ces habitations pourraient être une espèce d'énorme jardin public qui communique par des chemins, des ruelles. Ce seraient des lieux de rencontre tout à fait convivial où les gens pourraient se donner rendez-vous et circuler à une vitesse moins grande que au niveau du sol ou différents moyens de transport doux, non polluants, tels que le chenillard ou les cyclos, le tram modulaire, toutes sortes de choses qui sont des engins souples, légers, qui fonctionnent en prenant leur courant sur un rail électrique, se déplaceraient en silence et de manière bien plus légère que ce que nous avons actuellement, mais moins vite aussi, parce que se déplacer trop vite dans une ville crée du stress, du danger, et empêche ceux qui se déplacent de manière plus douce de trouver leur équilibre. Nous aurions nos façades qui seraient isolées, qui capteraient l'énergie solaire et qui comporteraient différentes sortes de manières de sortir, de balcons, des choses comme ça. Mais on peut aussi trouver une partie de plantes alimentaires, des condiments, des toutes sortes de choses qui pousseraient sur ces toitures et sur ces façades. Vivre dans la ville avec encore le cycle des saisons est une chose tellement importante. En circulant au niveau des toitures, on retrouverait l'accès à l'horizon. En mettant les gens en circulation dans les rues, dans le bas de la ville, les façades des maisons créent un obstacle qui nous empêche d'accéder à cet horizon qui est tellement important comme point de repère et comme élément de stabilisation. L'homme a toujours eu cette vision sur l'horizon qui lui apportait une vision lointaine. En même temps, c'est le climat, le temps, c'est l'épaisseur de l'air, tellement de choses sont perceptibles comme ça. Nous avons perdu tous ces points de repère. C'est pour ça que nous sommes des êtres déracinés. Nous vivons sur du béton et nous n'avons plus le contact avec le sol. Il faut peut-être retrouver ces valeurs pour retrouver nos besoins les plus essentiels et notre équilibre. Ce bonheur de vivre dans un environnement qui nous ressemble. Nous sommes des êtres biologiques. On vit comme une plante, comme un animal, avec les mêmes fonctions. Et nous ne sommes plus entourés que de matériaux morts et artificiels. Et c'est là qu'on commence à perdre la boule. Si on veut retrouver un bon sens, simplement notre équilibre, il faut peut-être retrouver nos racines, et pour ça, il faut de la terre.
Alors, je veux bien venir un habitant de cette future ville, qui finalement reste moderne, dans ce que je m'imagine, à travers mon esprit, mais peut-être que vous, auditeurs, avez imaginé quelque chose d'autre. Mais moi, je l'imagine moderne, je l'imagine belle, je l'imagine naturelle, et j'imagine aussi les ambiances sonores qui pourraient aller avec cette ville qui serait peut-être des oiseaux qu'on retrouverait, et peut-être plus forcément autant de voitures, autant de moteurs. Mais ma question, c'est pas celle-là, ma question, c'est dans vos voyages, vous êtes amené à voyager beaucoup, est-ce que vous avez déjà rencontré une ville qui pourrait se rapprocher de ce que vous aimeriez ?
Oui, sûrement. Je trouve qu'il y a des endroits où on est fasciné par l'effort que les gens ont fait d'aller dans ce sens-là. Au Brésil, à Curitiba, Jim Lehner, le maire qui a changé complètement le développement et l'orientation de la ville, est parti sur des principes écologiques. Pour se déplacer à Curitiba, on prend le bus. Il y a 3-4 sortes de bus différents qui fonctionnent très bien, qui ne coûtent pas cher. Ça coûte deux fois moins cher que se balader en voiture. Et surtout, ça prend deux fois moins de temps. Il n'y a pas photo, tout le monde se promène en bus. Et c'est convivial, c'est très agréable. Les rues sont... Il y a toujours des parties qui sont réservées exclusivement aux bus. Mais il y a d'autres endroits. Je pense qu'à Fribourg, pas très loin d'ici, c'est une ville qui m'a complètement fasciné. Le quartier Vauban est quelque chose qui m'a touché au plus haut point. de voir le résultat directement de ce que peut donner une volonté politique de faire de l'écologie un vrai but. Il y a un bonheur et une qualité de vie qu'on trouve rarement ailleurs. Donc les solutions, elles existent. C'est ça là, tout à fait la bonne nouvelle. Et elles peuvent perdurer dans le temps. Et surtout, on y vit bien mieux que dans les autres espaces. On atteint là quelque chose qui est beaucoup plus profond.
Luc, merci beaucoup. Quelque chose à ajouter ?
Peut-être cette réflexion de Francis Blanche. Mieux vaut penser le changement que changer le pansement.
Et soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.
Oui, merci à vous de m'avoir donné la parole.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.